Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Gabriel. Est-ce que tu peux te présenter brièvement?
Oui, salut. Mon nom est Gabriel Tessier. Je suis expert en cybersécurité, spécifiquement team lead de Microsoft 365 pour KPMG et Gide.
En plus, c'est tout nouveau pour vous autres. Tu es venu présenter au Sécure les éléments de sécurité de M365, ceux qui sont généralement peu utilisés ou qui auraient avantage d'être plus utilisés. Donc, essentiellement, on fait exclusion du MFA qui devrait être partout, le MAM, le MDM, les accès console. Tout ce volet-là ne sera pas abordé parce qu'il est considéré comme étant la base. Mm-hmm. Là, on va aborder de mon expérience aussi, des éléments qui sont mal aimés ou en tout cas pas suffisamment, on reçoit pas suffisamment d'amour pour toute la qualité des produits que Microsoft nous donne. Tu présentais tout séparé prévention, surveillance. Moi, je vais aller plus à Capella, fait qu'on va aller dans n'importe quel ordre. On va commencer par ce que maintenant appelle le Microsoft Defender for Cloud App, avant qui était le MCAS, essentiellement, qui ont renommé légèrement leur produit. C'est un amalgame de beaucoup de choses très intéressantes. Moi, je le résume, quand je l'explique, c'est comme étant un gros proxy de consommation des services SaaS en info nuagique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, puis on va creuser ensuite dans cet élément-là pour aller plus loin?
Oui, bien, l'image est bonne. C'est exactement ce que ça permet de faire. Dans le fond, l'objectif de ce service-là, c'est d'aller centraliser, en quelque sorte, les contrôles de sécurité pour les différents services SaaS. Donc, on peut aller y connecter plusieurs services SaaS. Donc, comme je l'ai mentionné dans la présentation, on peut aller brancher des services de Google, Dropbox, etc. Là-dedans, et aussi tout ce qui est relatif à Microsoft. Donc, O365, Azure peut aller se brancher là-dedans. On va aller y voir les différentes identités de nos utilisateurs, et puis on va pouvoir aller mettre en place toutes sortes de contrôles, que ce soit des mesures de nature de data leak prevention, que ce soit des mesures pour aller faire de la surveillance sur la session de l'utilisateur. Puis ensuite de ça, on peut mettre des contrôles comme de type Shadow IT là-dedans aussi. Donc, détecter les services qui sont utilisés par les utilisateurs sur leurs différents appareils. Et par la suite, même aller jusqu'à bloquer certains services qui ne sont pas cautionnés par l'organisation.
Oui, bien ça, tout le volet Shadow IT il exige aussi des composants supplémentaires pour être mis en œuvre, mais globalement, réussir vraiment à attraper ce genre de choses, à surveiller et à bloquer dans certains cas. Et il y a tout le lot de volets que je trouve très intéressant et très puissant. C'est dans le fond la capacité de contrôler l'expérience utilisateur des services infonuagiques. C'est-à-dire qu'essentiellement, on peut aller jusqu'à dire on va bloquer le téléchargement d'un fichier dans Outlook. Autant client lourd que client web. On est capable, ce degré de choses très, très intéressant. Je donne un exemple parce que celui-ci m'a été demandé dans un cas particulier, mais il y a énormément de choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de cet élément-là qui vient complémenter, dans le fond, l'accès continent que tu pourrais donner ou que tu as eu à déployer?
Oui, ben c'est ça. Concrètement, tu mentionnes accès conditionnel. C'est ça. Ça va aller s'intégrer avec les accès conditionnels dans Azure. On va aller rediriger le trafic de connexion via une règle d'accès conditionnel vers Cloud App Security ou, comme tu l'as dit, le nouveau nom, hein, Microsoft Defender for Cloud Apps. Donc, il va avoir carrément une prise de contrôle de la session de l'utilisateur. Oui, on peut aller empêcher le téléchargement. On peut aller jusqu'à empêcher des opérations de copier-coller aussi. Ça peut aller loin à ce niveau-là. Tout l'aspect surveillance aussi est là. Donc, on n'est pas obligé d'aller mettre en place des mesures de prévention en tant que telles, mais il y a toutes sortes d'alertes qu'on peut aller mettre en place dans Cloud App Security aussi pour être alerté en cas de comportement anormal ou ce genre de choses.
Oui, ben c'est ça, c'est un peu un couteau suisse à bien des égards parce qu'il y a beaucoup de fonctions dedans qu'on retrouve dans le fond dans certains cas dans des produits plus sophistiqués. Là, il y a tout le volet SOAR qui est disponible, il y a des playbooks qui sont exécutables ou même des réactions automatiques, c'est-à-dire si l'utilisateur fait ça ou départage automatiquement le fichier ou qu'il y a vraiment une souplesse très grande. Ça remplace pas des outils comme Sentinel qui sont beaucoup plus complets pour faire de la surveillance comme ça, mais au niveau opérationnel rapide, puis pour l'avoir utilisé, faire des enquêtes rapides, c'est assez le fun parce qu'il vient mettre tout la, en relation ce qui existe et ce qui a été fait dans le tenant. C'est un très bel outil qui est disponible assez bas dans les licences, donc c'est assez commode, donc beaucoup moins dispendieux que, disons, un Sentinel ou d'autres éléments comme ça. Très intéressant.
Ça vient intégrer aussi les différents services, comme tu le dis aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, c'est ça, c'est un couteau suisse parce que tu es capable de faire autant du DLP, de la surveillance, de bloquer le Shadow IT que toutes sortes que le prise de contrôle de la session. Ça vient s'intégrer avec le service de Defender for Endpoint. Ça vient s'intégrer avec Azure Identity Protection. Tu vas aller voir les alertes là-dedans aussi. Donc, c'est ça. C'est très complet.
Ben, c'est ça. Moi, en tout cas, quand on est en prise de connaissance ou en tout cas en montant en compétence avec un tenant, je le trouve très pratique pour les équipes de sécurité parce que justement, ça nous amène à une zone très intéressante. Tu as abordé aussi MIP, le Microsoft Information Protection, oui. Justement une approche justement pour protéger les documents. Et dans le document, les courriels sont comptés comme un document dans l'univers Office. Donc, comment tout ça se matérialise, puis un peu d'aller un peu plus loin, qu'est-ce que tu as discuté dans ta présentation?
Oui, bien en fait, c'est ça. Tout ce qui est relatif à Microsoft Information Protection, on commence d'abord par le volet catégorisation des données. Avec l'étiquetage, on va être en mesure d'aller mettre en place des étiquettes sur les différents types de documents, donc d'être capable de catégoriser tout ça pour ensuite de ça être capable de mettre des contrôles certains selon le type de données auxquelles on fait affaire. Donc, tu sais, comme je le disais dans la présentation, souvent, justement, ça va être une mesure qui est plus complexe à aller en profondeur pour certaines organisations, mais de juste commencer à mettre une étiquette qui dit ben mes documents sont tagués comme étant internes à l'organisation, ça peut déjà être une grande première étape qui aide à mettre en place des contrôles pour empêcher les gens de l'externe d'accéder aux données de l'organisation, par exemple. Les documents vont être chiffrés du moment où on met ce type d'étiquette-là dessus. Donc, ça vient donner un contrôle au niveau de la donnée directement, ce que les autres services ne permettent pas nécessairement.
Oui, puis si on va jusque dans les volets de gouvernance de O365, effectivement, on est même capable de tracer ce que les documents font, combien on a de documents de telle nature, et ainsi de suite. Donc, on a beaucoup d'éléments très importants, très intéressants à l'intérieur de celle-ci. Donc, on est capable justement d'aider à mieux protéger l'information de l'organisation qui, surtout avec l'info numérique, se multiplie de façon monumentale, puis on en perd encore davantage le contrôle qu'on pourrait en avoir sur site. Par exemple.
En effet, ben, un des gros enjeux avec tous les différents services de Microsoft 365, c'est que ça vient faciliter énormément le partage puis la collaboration, ce qui est une bonne chose en termes d'efficacité au travail. Mais maintenant, il y a tellement de vecteurs par lesquels on peut passer pour se partager de l'information que Microsoft Information Protection, sa grande force pour moi, c'est que, comme je l'ai dit, ça vient mettre une couche de protection directement au niveau de la donnée. Donc, peu importe ton utilisateur, il passe par où pour aller partager cette donnée-là, avec tous les risques qui sont associés à ça pour l'exfiltration de données et la perte de confidentialité. Ben là, au moins, tu viens t'assurer que tu as une couche de sécurité à l'endroit où ça compte le plus.
Absolument. Puis tant qu'à aborder le volet fuite de données, ben là, tu avais abordé DLP, autant au niveau préventif que surveillance. Puis la même chose pour Insider Risk Management, qui sont comme des produits simili complémentaires ou qui se suivent, justement, mais avec des finalités un peu différentes. Là.
Oui. Oui, bien en fait, au niveau du DLP, c'est une solution qui, on voit que Microsoft a essayé de la rendre plus complète qu'au départ. Au départ, c'était seulement une mesure qui permettait d'aller faire de la surveillance et de la prévention de perte de données pour seulement les services de base. Là. On parle de Exchange Online, SharePoint, OneDrive Teams. Puis maintenant, c'est vraiment rendu une solution complète qui va jusqu'au endpoint. Ça va jusqu'à, on peut aller mettre en place le DLP jusque sur des partages réseau, ce genre de choses-là. Donc, c'est maintenant une solution qui peut aller toucher à tout. Comme je l'ai mentionné dans la présentation, il ne faut pas se faire d'idée comme quoi c'est une solution miracle. C'est pas du tout ça, mais l'idée, c'est que ça va vous permettre, si vous mettez en place des politiques de DLP avec Microsoft 365, d'avoir une bonne idée de quels sont les types de données sensibles qui circulent dans mon organisation, d'aller sensibiliser les utilisateurs avec des notifications si jamais il y a quelque chose qui a été détecté dans du contenu partagé. D'être en mesure de se faire, d'un point de vue gouvernance, un peu comme Microsoft Information Protection avec les étiquettes, d'avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qui circule, comme je l'ai mentionné.
Oui, bien, surtout dans un premier temps, c'est bien de sensibiliser parce que la plupart des utilisateurs le font sans faire exprès. C'est pas, ils ne font pas ça volontairement de divulguer ou en tout cas de partager. Généralement, dans un courriel, les NAS, les numéros de carte de crédit, les informations bancaires, qui sont généralement les choses les mieux contrôlées, si on veut, dans cette technologie-là qui marche bien. On peut aussi définir des regex pour ceux qui sont un peu plus funky, justement pour définir des choses comme ça. Mais comme tu mentionnes, tu l'as répété quand même bien que c'est pas une technologie parfaite, mais comme toutes les technologies de DLP aussi. Là, c'est, de toute façon, bref, en général, cette mise en garde-là est bonne pour à peu près tous les produits de sécurité. Il n'y a pas de miracle qui se fait. Il faut les configurer correctement puis les amener où on veut. Puis l'autre pendant, c'est vraiment l'insider risk management qui est très intéressant parce que on constate souvent des fois des employés qui vont partir fâchés, mais ils vont partir aussi avec l'information. Et ce cas-là est d'autant plus présent maintenant qu'on est tous, tous en télétravail, il y en a qui retournent au bureau, mais pendant les deux dernières années, on a tous travaillé à la maison. Donc, cette vision-là d'appartenance d'information, des fois, elle est floue pour l'utilisateur. Ce produit-là, ce service-là permet justement de venir de colmater un peu cet espace-là.
Oui, ça donne de la visibilité de plus. En fait, ça vient donner plus d'informations au service de Microsoft pour être en mesure de prendre action pour des cas spécifiques comme tu l'as mentionné. C'est comme j'ai dit dans la présentation, on peut aller carrément brancher le système RH dans le service pour être capable d'avoir de la visibilité sur OK, j'ai un employé X qui a quitté à tel moment. Maintenant, quelles sont les activités qu'il a effectuées précédant son départ? Quels sont les documents auxquels il a accédé? Est-ce qu'il a supprimé certains fichiers dans SharePoint, etc.? Puis on est capable d'avoir cette visibilité supplémentaire-là, de creuser tout ça facilement dans l'interface et par la suite, d'aller transformer ça en cas d'investigation et d'enquête avec eDiscovery si on veut aller encore plus loin. Donc, ça vient faciliter tout ça plutôt que de tomber directement en mode enquête pour rien par rapport à quelqu'un qui a quitté, mais ça vient permettre facilement de faire cette petite investigation-là ou cette surveillance-là sur qu'est-ce qui a été fait précédant son départ. Donc, c'est ce type de scénario-là que ça va faciliter.
Ouais, puis là, tu mentionnes eDiscovery que tu n'as pas abordé dans ta présentation, qui est quand même un outil plus sophistiqué, qui lui aussi manque beaucoup d'amour parce que c'est, je vais en faire une définition, puis je vais te laisser mieux l'expliquer après. C'est essentiellement une espèce de façon d'encadrer que les administrateurs du système puissent accéder à du contenu qui ne sont pas propriétaires, essentiellement, là, pour permettre, dans un contexte d'investigation qui est très, très spécifique. Là.
Oui, exactement. Et Discovery, c'est carrément la solution pour faire de l'enquête dans Microsoft 365. Donc, évidemment, ça implique un niveau de privilège extrêmement élevé. Mais oui, c'est ça. Ça permet d'aller creuser très en profondeur au niveau de tous les services Microsoft 365. Excuse-moi. Pour voir qu'est-ce qu'un utilisateur. On peut aller carrément là, voir c'est quoi les conversations Teams auxquelles un utilisateur a participé, qu'est-ce qu'il a écrit, à quel moment. Ça va très loin. Donc, c'est ça. On peut ouvrir des cas d'investigation et aller creuser partout ce qu'on le souhaite.
Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-ci, l'approche, elle est. standardisé. Donc, on veut, il y a comme une chose, ça évite de faire comme dans les éléments sur site, c'est-à-dire que l'administrateur rentre puis regarde tous les fichiers jusqu'à temps qu'il trouve ce qu'il veut. Là, on a une approche qui est plus encadrée, qui est puis tracée aussi d'ailleurs, parce que si on veut bâtir un cas légal, ben ça nous permet de tracer ce qui s'est passé. Puis inversement, ben tracer un administrateur qui aurait des yeux un peu trop curieux, qui utiliserait ces mécaniques-là pour aller voir de l'information qui ne serait pas censé aller voir. Là.
Oui, exactement.
Ensuite, tu avais abordé simulation d'attaque. Moi, c'est une chose que je connais peu. Fait que tu as vraiment été en surface. C'est vraiment, de ce que j'en comprends, des éléments de permettre de sensibiliser les utilisateurs ou des genres de choses comme ça, ou ça va vraiment beaucoup plus loin que ça?
Ben, non seulement ça va permettre d'aller sensibiliser les utilisateurs, mais ça va permettre d'avoir ce qu'on a peu dans un contexte où on souhaite avoir une bonne idée de c'est quoi l'état, dans le fond, là, de notre écosystème et de nos utilisateurs par rapport aux types d'attaques les plus fréquents dans le cloud et dans Microsoft 365 en particulier, c'est-à-dire se procurer des indicateurs. Donc, avec ce service-là, ben on peut lancer des campagnes des types d'attaques les plus fréquents, comme je l'ai mentionné dans la présentation, par exemple du credential harvesting ou ben ce genre de choses-là. On va aller envoyer des courriels de phishing à nos utilisateurs et on est capable de voir au fil des campagnes, qui est-ce qui, par exemple, a à plusieurs reprises tombé dans le panneau, c'est quoi le pourcentage de mes utilisateurs qui ont cliqué ou non, etc. Tu sais, c'est des services souvent que dans les différentes organisations où je suis passé, les gens vont faire déjà ce type de campagne-là avec des services tiers, sauf que là, c'est intégré à Microsoft carrément. Ça vous permet d'avoir les indicateurs directement dans la même interface, au même endroit que les autres services. Puis ça vient potentiellement avec vos licences déjà. Donc, c'est une flèche de plus à l'arc de Microsoft que vous avez peut-être dans vos licences.
Oui, il y a beaucoup de flèches à cet arc. Oui. Il y en a vraiment beaucoup. Puis quand on commence, surtout ceux qui ont la chance de travailler des licences E5, la quantité de produits qu'il y a là-dedans, là, c'est phénoménal. C'était très intéressant. Il y a un autre service, ce sont le Azure Identity Protection puis le Defender for Identity qui sont pas tout à fait la même chose, mais qui ont des finalités qui ressemblent un peu aussi. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur ces deux services-là?
Oui. Defender for Identity, c'est le service qui est le plus méconnu des deux, selon moi, en tout cas par expérience. C'est très simple à mettre en place. Si vous y avez accès, moi, je vous encourage à aller le mettre en place rapidement parce que c'est simple à faire, puis ça fonctionne bien, c'est pas demandant, là. C'est simplement d'aller installer des agents au niveau des contrôleurs de domaine Active Directory et ça vient tout de suite là, regarder puis faire de la surveillance pour les attaques qui sont faites au niveau des contrôleurs de domaine. Bon, tout ce qui va être nécessaire pour s'assurer que ça fonctionne bien par la suite, ça va être d'aller mettre en place des cas d'exception. C'est notamment si vous avez des scripts à l'interne qui vont interroger les contrôleurs de domaine, ce genre de choses-là, ben, ça pourrait très bien qu'ils vous soulèvent des alertes. C'est juste d'aller les mettre en exception, puis par la suite, ça va aller détecter des attaques typiques qui sont faites on-premise, comme des passes de hash, des golden tickets, ce genre d'attaques communes-là. Donc, c'est simple à mettre en place. Ça va faire cette détection et cette prévention-là. L'autre volet de Defender for Identity, c'est aussi que ça vous permet de mettre des... j'oublie le terme exact. Je pense que c'est des Honey Token Accounts, si je me trompe pas. C'est un peu le même principe qu'un honeypot pour ceux qui savent c'est quoi. C'est le principe que vous allez créer un compte dans votre Active Directory qui semble avoir des privilèges élevés. Donc, vous pouvez donner un nom du type administrateur exchange, ce genre de choses-là. On va typiquement mettre un mot de passe faible sur ce compte-là pour faciliter la compromission du compte. Et puis, on va faire en sorte que personne ne se connecte jamais sur ce compte-là. Puis c'est un compte qui est présent dans l'Active Directory. Puis on va indiquer à Defender for Identity, voici, ça c'est mon Honey Token Account. Si jamais quelqu'un se connecte sur ce compte-là, c'est un indicateur de compromission. C'est un indicateur qui a un attaquant dans mon environnement qui vient de tenter de faire une élévation de privilège sur ce compte-là. Donc, c'est le deuxième volet à ce service-là qui est d'ailleurs, comme tous les autres services, comme j'ai mentionné, intégré à Cloud App Security, par exemple. Donc, on va voir les alertes arriver dans les mêmes dashboards. Excusez-moi pour les anglicismes.
Ouais, à force de travailler dans des univers anglophones, on a des fois un peu de misère à retrouver les mots français. Mais oui, effectivement, dans ce cas-ci, le MCAS est encore une espèce de point de chute pour ces différents éléments-là. Puis c'est le fun parce que on réussit à avoir des consoles infonumagiques pour des choses qui sont sur site dans ce cas-ci. Donc, on centralise nos efforts à un seul et même endroit.
Exact. Puis pour aller dans l'autre volet que tu as mentionné, Azure Identity Protection, ça, c'est encore une fois un service qui est simple à mettre en place. On parle simplement d'aller activer le service dans le portail Azure. Et puis, ce que ça va faire, pour vous donner un exemple concret, c'est que si un utilisateur se connecte à Montréal à 8 heures le matin, puis se connecte 5 minutes plus tard en France, bien, le service va déterminer, OK, ça, c'est un voyage qui est impossible de faire ce voyage-là en 5 minutes. Donc, il y a un certain niveau de risque qui va être associé à cette activité-là. Et on peut aller configurer le service pour faire en sorte qu'il y ait un comportement X ou Y, là, par exemple, bloquer la connexion ou demander le multifacteur, ou ça peut aller si on considère que la connexion est à risque très élevé, on peut aller jusqu'à demander à l'utilisateur de changer son mot de passe parce qu'on considère son compte comme ayant été compromis, par exemple.
Très intéressant, surtout dans un monde où nos comptes infonumériques sont constamment attaqués. C'est complètement fou. Puis d'ailleurs, on va faire juste une parenthèse sur ce type d'attaque-là qui est un peu dans cet univers-là. On va conclure avec ça. C'est justement les attaques par les malveillants qui ont trouvé le mot de passe, donc dans les effets de mot de passe, mais qui sont confrontés à des authentifications avec MFA. Donc, ils vont aller en répétition jusqu'à temps que l'utilisateur pour le modèle en mode push là, sur M65, ils vont le tanner jusqu'à temps qu'ils acceptent le pop-up puis qu'ils passent à l'étape suivante. Donc, on a rendu ce genre de sophistication-là, mais ces outils-là viennent justement stopper en amont avant même que le MFA ait besoin d'intervenir. Bien, Azure Identity Protection va bloquer le compte ou va agir dessus, ou même le MCAS dans certains scénarios ou certaines playbooks que vous avez développées. Là, puis ça, c'est des outils, encore un couteau suisse, fait que vous le configurez correctement, puis pas juste en surface. C'est ça l'élément. Là, fait que très intéressant. Je te remercie énormément pour ton temps, pour ta générosité de ce partage d'informations-là, autant au Secure que sur le podcast. Je vais te laisser le mot de la fin.
Oui, hey, merci beaucoup. D'abord, je veux remercier toute l'équipe du Secure. C'était un événement formidable et j'espère que vous l'avez autant apprécié que moi. J'ai déjà hâte à l'année prochaine. Puis merci pour l'invitation. Ensuite de ça, évidemment, c'est des services, les services desquels on a parlé qui sont très peu communs. C'est pour ça que j'en ai parlé dans ma présentation. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour la mise en place de ces services-là, n'hésitez pas à faire appel à un expert en sécurité infonumérique. Il y a moi au niveau de KPMG et GID. Mais sinon, Nicolas semblait bien s'en tirer aussi. Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes que vous pouvez contacter.
Oui, on a un bon bassin d'experts à Québec et à Montréal qui peuvent justement accompagner les besoins de ce côté-là. Là, c'est vrai que les gens, on suppose qu'ils sont au Québec, là, mais même en Europe aussi, il y a d'excellents experts dans ce domaine-là qui peuvent vous accompagner. Puis c'est très important de vous faire accompagner pour maximiser la sécurité que vous avez tirée de vos services. Fait que je te remercie énormément. Fait que de toute part, on va dire à la prochaine.
Oui, merci beaucoup. À la prochaine.